Chapitre 2. Un outil de manipulation. Dans l'esprit du grand public, l'appel aux émotions est indissociablement lié à l'idée de manipulation. Celle-ci, nous l'avons vu, désigne les procédés permettant d'influencer les individus en contournant, altérant ou neutralisant leurs facultés critiques. Ils ne sont plus, ou du moins plus totalement, en mesure de mettre à distance, examiner sereinement et, éventuellement, rejeter ce qu'il aurait proposé. Manipuler quelqu'un, c'est lui ôter le choix de ne pas être d'accord. Le transformer en objet que l'on utilise et fait agir à sa guise, sans qu'il puisse mobiliser ses défenses, parfois même sans qu'il en ait conscience. Nulle surprise donc que nous ayons tous cette pratique en horreur. Or, il semble que l'utilisation rhétorique des émotions puisse effectivement aboutir à ce type de situation. Reste à voir sous quelles conditions. 1. L'altération des facultés de jugement. Depuis quelques années, la psychologie cognitive et sociale s'est intéressée à la manière dont les affects interviennent dans la formation du jugement. Après la réhabilitation des émotions, inspirée notamment par les travaux d'Antonio Damasio, est alors venu le temps de leur mise en accusation. Ne pourrait-elle pas également altérer gravement la manière dont les individus traitent les informations? L'heuristique d'affect. Nous l'avons vu, la raison n'a pas besoin des émotions pour aboutir à des conclusions erronées. La plupart du temps, elle opère dans un mode de fonctionnement intuitif qui y parvient très bien par lui-même en ayant recours à des heuristiques de jugement, des opérations de simplification consistant à remplacer les questions difficiles par d'autres beaucoup plus simples. Or, parmi ces substitutions, on trouve précisément l'heuristique d'affect. Plutôt que de répondre à la délicate question « qu'est-ce que je pense de ceci ?», elle revient à se demander « est-ce que j'apprécie ceci ?». Ce mécanisme a été démontré de manière éclatante par le psychologue Paul Slovic et ses collègues qui ont étudié la manière dont les individus perçoivent les technologies potentiellement dangereuses, pesticides, conservateurs alimentaires, énergie nucléaire, etc. Au cours d'une série d'expériences, ils demandent à des participants d'évaluer les bénéfices et les risques présentés par chacune de ces technologies. Or, remarque-t-il, les individus interrogés ne fondent pas uniquement leur jugement sur les informations dont ils disposent, mais aussi et même surtout sur les affects qu'ils ressentent. Les personnes qui ont particulièrement peur des centrales nucléaires, par exemple, ont tendance à sous-estimer considérablement leurs avantages. À l'inverse, celles qui sont très enthousiastes devant les possibilités offertes par l'énergie atomique ont tendance à sous-estimer largement les dangers qu'elle fait courir. Sans même que les participants en aient conscience, la question à laquelle répond leur cerveau n'est pas « qu'est-ce que je sais des bénéfices et des risques présentés par ces technologies ?» mais plutôt « est-ce que j'ai le sentiment d'apprécier ces technologies ?» Si l'on se replace dans le cadre du débat sur la nature de la rationalité que nous explorions plus haut, il s'agit d'un résultat important. Dans les nombreuses situations où nous nous laissons porter par notre pensée intuitive, les émotions que nous ressentons peuvent influencer, voire déterminer, les jugements que nous élaborons. Elles interviennent effectivement dans notre raison et risquent, à ce titre, de nous mener à des conclusions biaisées. Voire, entre les mains d'un individu habile, elles nous exposent à la possibilité de nous faire manipuler. Et ce n'est pas tout. les travaux les plus récents suggèrent que les émotions ne se contentent pas d'intervenir au sein du processus heuristique. Au-delà, et de manière plus générale, elles pourraient même favoriser le basculement de notre cerveau dans ce mode intuitif. La charge cognitive. Les capacités du cerveau humain, bien que formidables, ne sont pas illimitées. Lorsque nous sommes en situation d'apprentissage ou devons résoudre des problèmes, nous sommes capables de manipuler un nombre restreint d'informations en même temps. Au-delà, nos facultés se retrouvent saturées. Nous éprouvons alors des difficultés à raisonner correctement et à intégrer de nouvelles données. C'est ce que l'on appelle la théorie de la charge cognitive. Or, les travaux les plus récents suggèrent que les contenus émotionnels auraient tendance à saturer tout particulièrement nos capacités cognitives. Notre attention serait captée par les affects aux dépens des autres informations. Nous aurions alors plus de mal à mémoriser les données auxquelles nous avons été exposés, aurions besoin de plus de temps pour vérifier la rigueur des raisonnements et, d'une manière générale, serions davantage démunis pour évaluer les arguments qui nous sont proposés. En somme, lorsque nous ressentons des émotions intenses, c'est l'ensemble de nos facultés critiques qui semble s'émousser. Que fait alors notre cerveau ? Il bascule sur son système rapide et recourt à des raccourcis afin de simplifier la complexité du problème qui lui est soumis. Plusieurs travaux ont en effet montré que confrontés à des contenus suscitant des affects forts, nous avons tendance à nous reposer davantage sur notre jugement intuitif. Faute d'avoir les ressources nécessaires pour déployer des raisonnements analytiques, nous utilisons des heuristiques. Lorsque les émotions sont trop intenses, nous choisissons l'option qui nous semble la plus évidente. D'un point de vue pratique, ces résultats ont des conséquences qui ne peuvent être ignorées. Les contenus émotionnels diminuent notre capacité à repérer les raisonnements biaisés. Ils augmentent également notre porosité aux informations erronées. En saturant nos capacités cognitives, ils altèrent notre aptitude à distinguer ce qui est vrai et rigoureux de ce qui est faux et frauduleux. Ils nous rendent vulnérables aux sophismes et aux fausses nouvelles, deux procédés au fondement des argumentations les plus fourbes. Les émotions peuvent ainsi être utilisées de manière stratégique afin de tromper notre vigilance pour masquer la faiblesse d'une proposition. C'est la définition même de la manipulation. Ces travaux doivent certes être pris avec prudence. Il s'agit encore d'une recherche en cours. Certaines études suggèrent qu'il pourrait être nécessaire d'introduire davantage de finesse dans l'analyse pour distinguer les effets produits par les différents types d'émotions. Il est possible, par exemple, que l'anxiété tende à accroître, plutôt que brider, notre recours aux facultés critiques. Nous commençons malgré tout à disposer d'un faisceau d'indices tendant à confirmer cette intuition ancienne. Lorsque nous nous laissons émouvoir par une argumentation, il devient plus difficile de nous en défendre. C'est la porte ouverte à toutes les déloyautés. 2. Émouvoir pour saturer la conscience. Pour reprendre les termes de la rhétorique, les émotions peuvent donc produire une saturation de conscience chez les auditeurs et, ce faisant, contrarier leurs facultés critiques. Mais nous avons vu qu'elles permettent également de susciter une prise de conscience lorsque nous sommes confrontés au défi de faire comprendre une situation trop étrangère. Comment distinguer alors entre ces deux utilisations du pathos dans le discours, l'une respectueuse et salutaire, l'autre trompeuse et délétère? Où se situe la frontière? nous proposons ici de tracer deux lignes au-delà desquelles la mobilisation des émotions peut effectivement relever de la manipulation. Lorsqu'elles sont provoquées par des informations biaisées ou erronées, d'une part, lorsqu'elles sont d'une trop grande intensité, d'autre part. Manipuler à l'aide de faits mensongers. La première et la plus évidente situation dans laquelle l'utilisation du pathos peut être contestable, c'est lorsqu'elle se fonde sur des faits biaisés ou erronés. Les éléments sur lesquels nous nous appuyons pour provoquer des émotions ne sont pas conformes à la réalité objective et vérifiable. Bien sûr, mettre en avant des affirmations contrefactuelles constitue en soi une pratique éthiquement problématique. Mais elle le devient encore davantage dès lors que ces affirmations sont utilisées afin de soulever des affects, puisque ceux-ci ont précisément pour conséquence de troubler le discernement entre le vrai et le faux. Non seulement nous mentons, mais de surcroît, nous perturbons la capacité des auditeurs à repérer le mensonge. Prenons un exemple historique. Le 2 août 1990, l'Irak envahit le Koweït. C'est le début de la première guerre du Golfe. Très vite, les États-Unis manifestent leur désir d'intervenir. Officiellement, l'objectif est de venir au secours des Koweïtiens. Officieusement, voilà plusieurs mois déjà que l'Amérique regarde d'un mauvais œil ce dictateur, Saddam Hussein, qui est en voie de constituer une superpuissance militaire au Moyen-Orient tout en contrôlant de très importantes réserves de pétrole. Toutefois, pour passer à l'offensive, le président George Bush Sr. a besoin du soutien de l'opinion publique internationale. Le 10 octobre 1990, un témoignage tombe à point nommé. Celui de la jeune Naïra, 15 ans, volontaire à l'hôpital koweïtien Al-Adan. Devant la commission des droits de l'homme du Congrès américain, les larmes aux yeux, elle raconte avoir été témoin d'une scène atroce. Des soldats irakiens, entrés de force dans la maternité, ont emporté avec eux les couveuses des prématurés, laissant les bébés agoniser sur le sol. Le récit, largement repris par les médias, glace le sang du monde entier. Dans les semaines qui suivent, le président américain le mentionne dans ses discours, à 10 reprises au moins. La cruauté de la soldatesque irakienne et la barbarie de Saddam Hussein ne font désormais plus de doute. Quelques semaines plus tard, le 29 novembre, le Conseil de sécurité de l'ONU autorise le recours à la force contre l'Irak. Les États-Unis ont obtenu gain de cause. Or, coup de théâtre, l'année suivante, le journaliste John MacArthur révèle, dans le New York Times, que le témoignage de Naïra est en tout point mensonger. Elle est en réalité la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington. Son récit a été préparé par une agence de communication à la demande du gouvernement koweïtien. Des enquêtes ultérieures prouveront que ces allégations étaient, à tout le moins, largement exagérées, sinon totalement fausses. À ce jour, le fait de savoir si George Bush était au courant du caractère frauduleux de ce témoignage, et l'a donc relayé sciemment, est encore débattu. En revanche, il est établi qu'il s'agissait bien d'une opération de propagande internationale orchestré par le Koweït. Par l'impact qu'elle a eu sur les opinions publiques, cette campagne a contribué très largement à faire accepter l'idée d'une intervention armée en Irak. La description d'un déferlement de violences gratuites infligées à des nourrissons ne pouvait que produire une image mentale insupportable. Confrontés à de telles émotions, nous nous trouvions dans l'incapacité de recourir à notre pensée analytique. Or, ces affects étaient fondés sur une réalité biaisée. Ici, le recours au mensonge suffit pour s'interroger sur la dimension éthique de la rhétorique utilisée. Mais c'est la recherche intentionnelle d'une saturation émotionnelle qui, au-delà, justifie de parler d'une stratégie de manipulation à grande échelle. Manipuler à l'aide d'émotions trop intenses. La seconde situation dans laquelle l'utilisation du pathos peut être contestable, c'est lorsqu'elle est d'une trop grande intensité. Nous l'avons vu, quand les auditeurs se trouvent saturés d'émotions, ils risquent de ne plus pouvoir mettre à distance, analyser et critiquer les argumentations. Les voilà, en partie au moins, privés d'une de leurs libertés les plus fondamentales, celle de ne pas être d'accord. En tant qu'auditrice ou auditeur, nous devons donc être particulièrement vigilants. Les affects que nous ressentons sont, certes, une porte ouverte sur la compréhension de réalités que nous pourrions difficilement appréhender autrement. Il serait donc absurde de chercher à nous en couper. Mais il faut également rester attentif à ce point de bascule au-delà duquel nous sommes tellement bouleversés que nous ne parvenons plus à raisonner correctement. Et garder à l'esprit cette règle essentielle, ce n'est pas parce que nous avons ressenti des émotions que nous devons nécessairement concéder notre conviction. En tant qu'oratrice ou orateur, en revanche, ce constat nous confronte à un double dilemme éthique. Tout d'abord, comment déterminer si nous sommes en train de dépasser la limite au-delà de laquelle le libre arbitre des auditeurs est menacé ? À partir de quel moment les émotions que nous suscitons deviennent-elles trop intenses ? Hélas, on ne le sait jamais. Faute de disposer d'une sorte d'émotionnomètre que nous pourrions brancher directement sur le cerveau des personnes auxquelles nous nous adressons, nous sommes condamnés à évoluer dans le brouillard. Il est probable d'ailleurs que les affects soient ressentis avec une intensité différente par chaque individu. Un même message pourra être reçu par les uns avec un sourire de satisfaction ou un pincement d'anxiété, et par les autres avec une explosion de joie ou un hoquet de terreur. Dès lors, comment être sûr que nous soyons toujours en train de rechercher la conviction et non de nous livrer à de la manipulation? La réponse est simple, on ne le peut pas. En cette matière, la frontière qui sépare l'une de l'autre ressemble moins à une belle ligne rouge qu'à une inconfortable bande grise. Et quand bien même nous aurions pleinement conscience de soumettre nos auditeurs à des émotions trop intenses, au point de les saturer, il nous reste alors le second dilemme. Sommes-nous prêts à nous en priver, fût-ce au prix de notre efficacité ? Acceptons-nous le risque d'échouer ? Notre éthique personnelle pèse-t-elle davantage dans la balance que la cause dont nous assurons la défense ? Imaginons que nous soyons porte-parole d'une association humanitaire dont la mission consiste à venir au secours de populations victimes de famine. Hésiterions-nous vraiment à mobiliser la tristesse, la honte ou la culpabilité tout en sachant qu'elle pourrait nous permettre de lever des fonds qui sauveront des vies? Ne devrions-nous pas, au contraire, être prêts à tout pour amener l'opinion publique à se confronter au drame? Ne devient-il pas éthique de chercher à manipuler si cela permet d'aider des individus en danger? Mais alors, là aussi, où se situe la limite? À partir de quels enjeux les procédés les plus contestables deviennent-ils soudain acceptables? La question du lien entre émotion et manipulation nous ramène une nouvelle fois aux dilemmes éthiques propres à toute entreprise de conviction. Et à nouveau, il n'existe pas de bonne solution. Seulement des interrogations par lesquelles nous sommes condamnés à être taraudés et que nous sommes seuls en notre fort intérieur à pouvoir trancher.